Les grands titres de ce dimanche 26 novembre, les élections dans le Queensland et toujours pas de résultat définitif pour le moment. Le Labour a 43 sièges et le LNP conservateur a 38 sièges. Il faut 47 sièges pour pouvoir gouverner. Le décompte des votes se poursuit. 3 jours de deuil national en Égypte après l'attaque contre une mosquée qui a fait 305 morts. C'est un bilan provisoire. Et puis les vols aériens de Bali et vers Bali reprennent malgré l'éruption du volcan Mount Agung hier. Les élections dans le Queensland et le Labour d'Anastasia Palaszczuk gardent la confiance de pouvoir gouverner malgré aucun résultat final. 70% des votes ont été comptés avec le Labour qui a obtenu pour l'instant 43 sièges, le LNP conservateur 38 sièges. One Nation n'a pas remporté de siège encore à la surprise de tous. Il faut une majorité de 47 sièges pour former le prochain gouvernement. On écoute Anastasia Palaszczuk.
I wait the final days of counting with confidence and belief that a stable majority Labour government will be returned to work for all Queenslanders.
Anastasia Palaszczuk, il y a encore 400 000 bulletins de vote postaux à compter. Le chef de l'opposition Tim Nicholls admet qu'il n'y a pas suffisamment de votes et de sièges pour former un gouvernement conservateur et déclare qu'il défiera Mademoiselle Palaszczuk pour qu'elle ne forme pas un gouvernement minoritaire. Elle l'avait promis avant les élections, pas d'alliance avec les partis minoritaires.
No deals with the Katters, no deals with the Greens, no deals with the minor parties and no deals with the independents. The question for Anastasia Palaszczuk is will she keep her word?
Tim Nicholls, le chef du LNP. One Nation n'a pas gagné de siège pour le moment. Leur chef Steve Dixon a perdu son siège. Le LNP devance One Nation 35,1% contre 28,4% dans son siège. Mais Steve Dixon ne concède pas la défaite pour l'instant.
I'm not about to give it up quite yet, but it's not looking absolutely fantastic for me, and I've got to be very straightforward of that. We've gone in and we've fought a very, very strong battle. My particular seat here, the LNP and the ALP have worked together, and they've preferenced against me. That is the way the cookie crumbles.
Steve Dixon, qui était en charge du One Nation au Queensland. Le ministre australien du commerce international, Steve Chobo, a critiqué le plan britannique post-Brexit sur les importations de nourriture. La Grande-Bretagne et l'Union européenne veulent partager les quotas qui existent entre elles, ce qui limiterait l'accès australien au marché britannique, selon Steve Chobo.
Well, in essence, it's not acceptable. And the reason it's not acceptable is because as the EU has expanded over the years, there hasn't been a commensurate increase. Why would we accept a proposition that would see a decline in the quota available because of the Brexit decision?
Steve Chobo, le ministre australien du commerce international. En Égypte, il y aura 3 jours de deuil national après l'attentat qui a fait pour l'instant 305 morts dans une mosquée vendredi au nord du Sinaï. Alexandre Bouchanti revient sur le déroulement de cette attaque.
Selon le parquet général, les attaquants étaient entre 25 et 30. Ils sont arrivés aux abords de la mosquée dans 5 camionnettes 4x4. Ils portaient des treillis, étaient cagoulés et brandissaient des drapeaux noirs de l'État islamique. Ils se sont postés devant les portes et les fenêtres de la mosquée à Dradwa et ont commencé à tirer sur les fidèles. Les fuyards ont été cueillis par des rafales d'armes automatiques. Une attaque qui a fait pour l'instant 305 morts, dont 27 enfants. 128 personnes, dont certains dans un état grave, ont été blessées par balles, indique le parquet. Selon des témoins, les assaillants ont agenouillé des victimes, puis les ont exécutées d'une balle à l'arrière de la tête. Le parquet a ordonné l'arrestation des agresseurs et leur traduction en justice. Mais pour beaucoup d'Égyptiens, il n'est pas question d'attendre des procès qui peuvent durer des années.
Alexandre Bouchanti pour RFI. Israël exprime sa solidarité à l'égard de l'Égypte après l'attaque contre la mosquée. Explication de Michel Paul pour RFI.
La coopération militaire entre Israël et l'Égypte n'est un secret pour personne. Elle existe en fait, avec des hauts et des bas, depuis la signature du traité de paix israélo-égyptien en mars 1979. pour atteindre son apogée avec l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sissi. La coordination entre les deux pays est essentiellement consacrée au renseignement militaire, on l'a vu encore récemment avec la réouverture du point de passage de Rafah entre Gaza et le Sinaï. Mais régulièrement, l'aviation israélienne intervient dans la péninsule à la demande des Égyptiens, en faisant usage notamment de drones. Après le massacre de la mosquée, Israël dit se tenir épaule contre épaule avec l'Égypte. Le ministre israélien du renseignement Israël Katz appelle un front régional contre le terrorisme. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoque lui la coopération fructueuse et secrète d'Israël avec des pays arabes dans un contexte d'inquiétude face à l'influence grandissante de l'Iran au Moyen-Orient. Il est question notamment du rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite.
Michel Paul pour RFI. Au Pakistan maintenant, le gouvernement fait appel à l'armée après des heurts violents entre la police et des islamistes dans la capitale Islamabad. Au moins 6 personnes ont été tuées, dont un policier, et au moins 190 personnes ont été blessées, dont des membres de la force policière. Marie Lecoq pour RFI.
Les troubles ont commencé à éclater à Islamabad lorsque 4000 policiers sont intervenus pour tenter de déloger un millier de membres du nouveau parti politique musulman radical, le Terek El Abaïk. Après 3 semaines de négociations infructueuses, des groupes islamistes ont lancé des manifestations publiques dans les rues d'Islamabad et bloquent certains axes routiers. Ce samedi, près de 9000 policiers et paramilitaires ont été déployés dans la capitale pour essayer de contenir les 2000 manifestants. L'évacuation devait se dérouler pacifiquement selon les autorités. Mais lorsque les policiers ont tiré les premières grenades lacrymogènes, la situation a commencé à dégénérer. Les manifestants ont aussitôt répliqué avec des jets de pierre, tuant alors un policier. Dans une rue de la capitale, le cadavre d'un manifestant aurait été également retrouvé. Selon les médias pakistanais, des blocages similaires ont démarré dans d'autres villes du pays, dont Lahore et Karachi. Les islamistes demandent la démission du ministre de la Justice Zaïd Hamid, qu'ils accusent d'avoir amendé la loi très controversée sur le blasphème. Au Pakistan, il s'agit d'une question de société très sensible. Toute personne coupable d'injure envers l'islam encourt la peine de mort ou la prison à perpétuité. Chaque tentative de réformer la loi provoque systématiquement des débordements souvent mortels.
Marie Lecoq pour RFI. En France maintenant, le président Emmanuel Macron a dévoilé à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes un plan pour lutter contre les violences envers les femmes. Analyse de Marina Mielzarek pour RFI.
Pour le contexte, et avant d'annoncer les mesures, le président Macron a étonné la salle avec une minute de silence en hommage aux 123 femmes décédées l'an dernier de violences sexuelles. Et il a rappelé la difficulté pour les victimes de parler. Parce que justement, la majorité des violences, des coups, des viols, des bagarres, se déroulent dans la famille, avec des proches, un père, un cousin, un patron. Donc, une question de culture pour oser dénoncer. Alors, beaucoup de mesures sur 2 grands axes, accompagner les victimes et punir les auteurs. Accompagner les victimes avec un site internet qui permettra sous anonymat de contacter la police ou la gendarmerie, faciliter aussi l'accueil dans les hôpitaux ou des centres de santé sur l'ensemble du territoire, y compris dans les territoires d'outre-mer. Punir les auteurs avec l'allongement du délai de prescription de 20 ans, il passera à 30 ans et la création d'un délit d'outrage sexiste. Des formations pour alerter les maîtres, les parents d'élèves et les patrons d'entreprise sur le harcèlement sexuel sur internet et à l'accès à la pornographie. Mais au sortir de cette cérémonie, les associations de victimes de violences sexuelles étaient plutôt sceptiques, voire mécontentes. Pas sur l'état d'esprit général de ce plan, mais sur le budget. 420 millions d'euros quand l'Espagne en mobilise 1 milliard.
Marina Mielzarek. En France toujours, Jean-Luc Mélenchon a ouvert hier samedi la convention de son mouvement, la France insoumise, à Clermont-Ferrand, par un discours de lutte et sur la solidarité. On l'écoute.
Il va falloir convaincre. Il faut sortir du carcan. Il faut briser les chaînes. Il faut sortir des traités budgétaires européens qu'ont préparés et signés Sarkozy et ensuite Hollande, parce que c'est ça qui pousse le continent entier à la misère et à la guerre. Il est donc temps de tourner la page. C'est ça que nous ferons, car il y aura une liste, l'Europe insoumise aux élections européennes. Et s'il y a une liste transnationale, il y aura une liste transnationale, l'Europe insoumise, avec Podemos, avec les amis grecs, avec le Bloco, avec tant d'amis et de camarades sur tout le vieux continent, décidés à s'arc-bouter pour la paix et le progrès social.
Voilà Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Les élections du 21 décembre en Catalogne et Carles Puigdemont, le président destitué de cette région, a lancé sa campagne pour ses régionales depuis la Belgique. Le point avec François Musso pour RFI.
Il s'agit du scrutin le plus transcendantal de l'histoire de Catalogne. C'est en substance ce que dit Carles Puigdemont depuis son exil judiciaire en Belgique. Pourquoi ? Parce que selon lui, ces élections sont plébiscitaires. Concrètement, toujours aux yeux du séparatiste Puigdemont, si les sécessionnistes dont il est le leader emportent le scrutin à la majorité absolue, cela voudra dire qu'une majorité de Catalans veulent l'indépendance et donc que de nouveau, même si Madrid ne veut rien entendre, il conviendra de se séparer, je cite, de l'État espagnol. Dans son équipe, Puigdemont a choisi d'autres séparatistes qui refusent tout compromis. Reste que le pari du leader catalan est risqué. D'une part, il peut perdre les élections, selon divers sondages, ou en tout cas, ne pas obtenir la majorité absolue. D'autre part et surtout, il est très discuté dans son camp, notamment par les proches de Oriol Junqueras, un indépendantiste qui a le vent en poupe et qui n'a pas du tout envie d'une liste commune avec Puigdemont. Quoi qu'il en soit, ce dernier a montré que pour les prochaines élections du 21 décembre, il entend jouer à quitte ou double.
François Musso pour RFI. Au Zimbabwe, la Cour juge légal le coup de force de l'armée contre l'ancien régime de Robert Mugabe. Pour la Cour, cet acte a empêché des personnes non élues d'occuper des fonctions électives. Précision de Julia Blinger pour RFI depuis Harare.
Dans son verdict, la Cour estime que l'intervention de l'armée est légale car elle visait à empêcher des personnes non élues d'occuper des fonctions électives. Une référence à Grace Mugabe, l'épouse de l'ex-président et son entourage, accusée de peser sur les choix de l'ex-président pour faire avancer leurs intérêts personnels. Grace Mugabe est notamment accusée d'avoir poussé au limogeage de l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, dont elle convoitait le poste. La Cour a donc estimé que l'acte de l'armée visant à empêcher les proches de l'ancien président Mugabe d'usurper le pouvoir sont constitutionnels, une décision de justice qui donne un vernis de légalité à cette intervention de l'armée, accusée depuis le début d'avoir renversé le président. Pour Human Rights Watch, ce jugement est surprenant. L'organisation des droits de l'homme questionne l'indépendance de la justice zimbabwéenne.
Précision donc de Julia Blinger pour RFI. Les vols aériens reprennent à Bali après l'éruption du volcan Mount Agung pour la deuxième fois cette semaine. Quelques 25 000 personnes ne sont pas revenues chez elles depuis le mois de septembre quand le volcan a commencé à cracher des cendres, les premières en plus de 50 ans. La dernière éruption remonte à 1963 et a tué quelques 1100 personnes. Coup d'œil météo pour ce dimanche. En Australie, Perth maximal de 32 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 29, Hobart 23, Canberra 30, Sydney 27, Brisbane 29, Cairns 31, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce 26 novembre, les élections dans le Queensland et pas de résultat définitif pour le moment. Le Labour a 43 sièges et le LNP conservateur a 38 sièges. Trois jours de deuil national en Égypte après l'attaque contre une mosquée qui a fait 305 morts. C'est un bilan provisoire. Fin du journal, merci à vous d'être avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench